Chapitre 2. Chez les êtres faibles, les actes de volonté sont comme les accès de fièvre chez les gens robustes, ils ne durent pas. Au lieu d'être logique avec lui-même et de rester tranquillement chez lui, Henri, après avoir reconduit sa mère, revint à la préfecture. Après s'être juré de ne plus penser à Lucienne, il voulait la revoir, lui dire un dernier adieu, serrer encore une fois sa main. Déception, Lucienne était partie. Il chercha Josiane. Josiane, c'était encore un peu de Lucienne. Elle lui parlerait d'elle, ne fût-ce que pour en dire du mal. Josiane également avait disparu. Seul Gaétan, le frère de Josiane, était encore là, parmi les intrépides, résolus à tenir jusqu'au matin. Gaétan de Nestalas, haut comme une botte, noir et sec comme un pruneau, était doté d'une suffisance qui n'avait d'égal que la bêtise. Profession, homme de sport et de cercle. Les terres de Sabarège ne donnant plus, depuis longtemps, que des revenus, sinon problématiques, du moins d'une maigreur qui n'eût pas permis de solder seulement le dixième des dépenses du jeune homme, il s'était réfugié dans cette situation de haute bohème, conforme à ses goûts, en rapport avec son intelligence, et dont il vivait tant bien que mal, plutôt mal que bien, n'ayant jamais le sou. Toutefois, en apparence, rien ne lui manquait. Il était toujours vêtu à la dernière mode, il avait la voiture du dernier modèle, le harnais le plus correct, le cheval le plus élégant. Possédant avec cela l'art de se présenter et d'en imposer par un intarissable bagout, Gaétan parvenait à faire une certaine figure dans le monde, en dépit d'un physique peu séduisant et des nombreuses tares morales dont on le savait affligé. Henri, pour bien des raisons, n'avait que de l'aversion pour ce petit fat. Néanmoins, il résolut de l'aborder et se laissa entraîner à danser, boire et cotillonner comme lui, tant il avait besoin de se lasser les nerfs, de se briser le corps, de s'étourdir. Le sage, doux et modéré garde général, se fit pour une fois viveur et s'en donna à cœur joie, sembla-t-il, toute la nuit. Enfin, il fallut se séparer. Il était 7 heures et déjà le jour pointé. Henri s'enveloppa dans sa pelisse et descendit le cours du Chapeau Rouge. Bien qu'éreinté, il se sentait dans un état de surexcitation trop violente pour aller se coucher de suite. Au lieu de rentrer, il préférait flâner 1 heure dans cette brise fraîche qui venait du fleuve, le long de ses quais, que l'aurore réveillait lentement pour le grand bonheur du jour. Arrivé au quai de la douane, il s'arrêta, s'appuya au parapet de pierre et resta quelque temps à regarder couler l'eau. Quelqu'un derrière lui l'interpellait. « Surtout, n'oubliez pas, à jeudi, nous comptons absolument sur vous. Rendez-vous à Sabarège à 9 heures. » C'était Gaétan qui passait en voiture en allant à la gare. De la main, Henri fit signe que c'était convenu, qu'il n'oublierait pas. Nestalas avait fait arrêter son cheval. Il ajouta en riant « Que diable faites-vous donc là ?»« Rien, je contemple la nature. »« Ah ah, la nature, très bien, très bien. Moi, j'aime mieux le bac. Au revoir. » La voiture s'éloigna. D'Agincourt se replongeait dans sa méditation lorsqu'un gémissement tout près de lui attira son attention. N'ayant vu personne s'approcher, il eut d'abord un sursaut de surprise, presque de peur. Qu'était-ce ? Un enfant grondé ? Un vieillard abandonné ? Un amant trompé ? Un mendiant rebuté partout, à bout de force, mourant de faim ? Il cherchait des yeux autour de lui, et tout à coup, il aperçut, accroupi, écroulé plutôt, près d'une des bornes de pierre, une femme, la tête entre ses mains, la poitrine secouée de gros sanglots. Tout de suite, le jeune homme eut pitié. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il très doucement. « Quel ennui ! Quel chagrin ! Si je puis vous être utile, ma pauvre enfant !» Les derniers mots se perdirent, à peine distincts. Brusquement, une défiance avait arrêté le premier élan de compassion. « Qu'était-ce après tout que cette femme ? sans doute une de ces créatures effrontées, comme il en pullule dans tous les ports, à qui tous les moyens sont bons pour vous apitoyer, vous enjôler, et qui ne vous attirent à l'écart dans une ruelle sombre que pour vous faire dévaliser ou assassiner. Hors d'une femme seule, en ce lieu, à cette heure, que supposer sinon ? Henri acheva sa pensée avec un geste de dégoût, et déjà il se détournait pour passer outre. Mais l'inconnu se leva, et il demeura malgré lui, retenu par une curiosité qui s'éveilla soudain dans son âme, une curiosité attendrie, inquiète, compatissante. C'était une femme d'une vingtaine d'années environ, au corps svelte, à la taille élégante, quoique un peu mièvre. Le développement de la poitrine et des hanches, retardé, contrarié peut-être par la claustration, l'inactivité constante de l'atelier, ne s'était pas fait avec la plénitude, la force d'expansion qu'il acquiert lorsque la vie s'écoule au grand soleil dans l'action. Le visage creusé, pâli, d'un ovale allongé, accusait le même caractère. La bouche fine était marquée d'un pli amer. Les yeux étaient bleu foncé, très doux, et de lourdes torsades de cheveux noirs tombaient avec un charme de désordre exquis sur une nuque blanche merveilleusement dessinée. Tout cela, c'était la belle, l'ardente jeunesse, mais une jeunesse qu'on sentait près de se flétrir, près de s'éteindre avant d'être complètement épanouie sous les angoisses du travail et de la misère. Les défiances d'Henri s'étaient évanouies et une sympathie instinctive l'attirait vers cette jeune femme à la physionomie délicate, distinguée, dont l'attitude lasse, navrée, disait toutes les souffrances et qui semblait implorer timidement un mot de consolation, un peu de ce que savent donner les cœurs généreux et tendres. « Qu'avez-vous, mademoiselle ? » murmura-t-il. « Vous êtes malheureuse. Si je pouvais faire quelque chose pour vous. Mais vous ne voudriez pas me laisser connaître votre peine. Je suis un inconnu. Je ne mérite pas de recevoir vos confidences. Cependant, ce hasard extraordinaire qui m'a mis sur votre chemin, n'est-ce pas la Providence ? Si je pouvais, si vous vouliez... » Il s'arrêta, troublé par ses propres paroles, la gorge soudain serrée par une incompréhensible oppression. Et la jeune femme le regardait avec un sourire au milieu de ses larmes, réconfortée par ce langage plein de douceur, attirée, elle aussi, par une invincible sympathie vers ce jeune homme inconnu dont la voix émue, le regard loyal lui inspirait confiance. « Vous semblez si malheureuse, répéta-t-il. Si vous vouliez, je saurais, je crois, vous être utile. » Des sanglots secouaient encore la poitrine de la jeune femme, cette pauvre poitrine étriquée, sous la jaquette de drap propre et râpé. Alors il s'approcha, la main tendue. « Voyons, calmez-vous, supplia-t-il. Je sais bien qu'il y a parfois dans la vie des épreuves si pénibles qu'on ne peut les dominer sur le champ, que le désespoir vous écrase. Mais peu à peu, le courage revient. Il en faut du courage, à tout le monde. Allez !» « Oh, monsieur, si vous connaissiez mon malheur !» murmura enfin l'inconnu. « Sans doute il en faut du courage tout le long de la vie. J'en ai déjà eu beaucoup, mais il y a des limites. Maintenant, je suis à bout de force. Je me rends. Pauvre petite, et qu'est-ce qui a pu briser ainsi votre énergie ? Je ne dois pas le savoir. À quoi bon vous importuner ? Le mal est sans remède. » Oh, en tout cas, un chagrin partagé est moins lourd à porter. Lorsqu'on a versé sa peine dans un cœur ami, on souffre moins. Ah, si je pouvais toujours le faire, moi !» Un soupir acheva la phrase. La jeune femme avait compris, et tout de suite, oubliant sa propre infortune, elle eut pour d'Agincourt un long regard de compassion. Henri, encouragé, crut pouvoir insister. « N'est-ce pas, vous avez confiance en moi maintenant ? Allons, dites-moi ce qui vous afflige. Vous avez deviné que moi non plus, je ne suis pas heureux. Je comprendrai mieux. » Elle se taisait encore par timidité, par pudeur, non par manque de confiance. Alors le jeune homme se décida à interroger. « Vous n'êtes pas seul au monde, Vous avez bien des parents, votre mère, un mari peut-être.
« Oh, un mari !» dit-elle avec ironie. « Qui donc voudrait m'épouser ?»«
Non, je ne suis pas mariée. Rien ne presse d'ailleurs. J'ai 19 ans. »«
Et vous habitez avec votre famille ? Vous ne travaillez pas ?»«
Hélas, que ne puis-je avoir toujours du travail ? Au moins, les pauvres petits êtres dont j'ai seule la charge aujourd'hui ne manqueraient pas du nécessaire. »« Ah, monsieur, c'est épouvantable !» Quand mon père vivait, nous étions à l'aise. Il travaillait à la verrerie et gagnait gros. On me faisait alors élever comme une demoiselle. Puis mon père est mort il y a 2 ans. Nous restions seuls, ma mère toujours souffrante, moi sans métier et 3 petites sœurs trop jeunes pour travailler. C'était à moi qu'il incombait de subvenir à tout. Vous parliez de courage. Oh, j'en ai eu à ce moment-là, je vous le jure. Je me suis mise à l'œuvre sans hésiter. On m'avait fait entrer dans une fabrique de cartonnage. Je m'y employais de mon mieux. Mais, dame, les premiers temps, je ne rapportais pas gros. Aussi, mon père ayant laissé quelques économies, écorné, il est vrai, par 6 mois de maladie, c'est avec cela que nous parvînmes à joindre les deux bouts. Cette ressource épuisée, la gêne a commencé. Cependant, j'avais trouvé une place dans une maison de mode. Je gagnais davantage, mais mes salaires n'augmentaient pas dans la proportion où augmentaient les charges de la maison. La gêne ne fit que grandir. Pour comble, ma mère, qui jusque-là s'était occupée du ménage tout en travaillant un peu de son côté, tomba tout à fait malade et se mit au lit. Elle y est depuis 10 mois et le médecin dit qu'elle ne se relèvera peut-être jamais. Alors j'ai dû, seule, faire face à toutes les dépenses. Des médicaments pour ma pauvre maman, du pain pour les petites. Ah, ce n'était pas facile. Enfin, jusqu'à présent, j'arrivais tant bien que mal. Mais voilà que maintenant, notre dernière ressource s'en va. Je n'ai plus de travail. Pauvre enfant, comment se fait-il ?
Ma mère ayant été plus souffrante, j'ai cru que mon devoir était de ne pas la quitter. Je suis donc restée 8 jours absente de mon atelier. J'avais prévenu, bien entendu, et on avait accepté. Mais hier, quand j'ai voulu rentrer, on m'a remerciée. La patronne a prétexté que j'étais partie juste au plus fort de la saison et que, pour suffire au surcroît de commandes, elle avait dû me remplacer. Je suis donc retournée chez moi la mort dans l'âme. Et pour ne pas aggraver l'état de ma chère maman, je lui ai caché cette affreuse situation, j'ai inventé une histoire. Puis, ce matin, afin de ne pas éveiller ses soupçons, je suis sortie comme pour me rendre à l'atelier. Mais, sachant l'accueil qu'on m'y ferait, je n'ai pas osé aller jusque-là. Voilà pourquoi vous m'avez trouvée ici, désespérée. Je me demande même si j'aurai le courage de rentrer à la maison, tant je redoute de causer une révolution à ma chère malade.
Henri pressa longuement la main de la jeune fille, sans pouvoir parler. Enfin, il domina son émotion et murmura « Et maintenant, je sais tout, toute votre histoire ?» Elle le regarda d'un air de reproche, comme si cette question renfermait un sous-entendu désobligeant. Tout de suite, il se reprit.
« Oh, pardon, vous avez mal interprété mes paroles. »«
Oui, c'est tout, » interrompit-elle. « Vous savez tout. » Il y eut un silence. Henri était embarrassé et confus, embarrassé de ne pouvoir, dans son inexpérience de la vie, rien imaginer pour remédier à la situation atroce qu'on venait de lui dépeindre. Confus en face de cette infortune d'avoir, auparavant, attaché tant d'importance à ses propres ennuis. Alors, avec un mouvement d'impatience contre lui-même, pour échapper à l'ironique obsession de son impuissance, il coupa court. « Je ne comprends pas ces choses-là, » fit-il. « Je n'ai pas l'habitude, je suis prise au dépourvu. Pardonnez-moi, j'ai besoin de réfléchir pour vous aider sérieusement. De l'argent, vous n'en accepteriez pas, je ne veux pas vous en offrir. Non, c'est autre chose qu'il vous faut. Je trouverai. Désormais, je suis avec vous de tout cœur. Je m'emploierai dans la mesure de mes forces à vous être utile. » Il parlait par saccades, tantôt lentement,
tantôt avec volubilité, d'un air à la fois ému et distrait, peut-être pour se donner le change à lui-même. Et la jeune fille le regardait toujours, un peu étonnée, toute triste. « Allons, du courage !» reprit Henri. « Pour le moment, je ne peux que vous répéter cela, et je vous réponds que vous sortirez promptement de cette détresse, mademoiselle. »« Mademoiselle, comment ?»« Angèle » soupira-t-elle bien bas. « Angèle ? Angèle ? Angèle Mazera, 23, quai de Bacalan. » Le garde général sortit de sa poche une carte de visite et la lui tendit. « Voici mon nom, mon adresse, dit-il. Vous vous souviendrez que vous aurez toujours là un ami. »«
Merci, balbutia-t-elle. »
Il s'éloigna rapidement sans se retourner vers la rue du Palais Gallien, et, en marchant, il mâchonnait dans sa barbe une larme au bord des cils. « Pauvre petite, doit-elle souffrir ? Et qui aura-t-il pour elle, après un certain nombre d'efforts courageux d'abord, puis toujours vains, et par conséquent de moins en moins énergiques ? Qui aura-t-il, sinon les compromissions douloureuses et la culbute finale ?»